Vous êtes bien sûr Esprit Occitanie. Francis Ricard, bonjour. C'est l'émission La poésie chiche. Je vous ai laissé avec Rimbaud. Nous allons reprendre cette aventure. J'ai laissé Rimbaud après ce fameux coup de revolver que Verlaine a tiré sur lui et qui a conduit Verlaine en prison pour 2 années. À partir de là, je l'ai dit, la poésie pour Rimbaud, c'est terminé. Il n'écrira plus de poèmes. Toute son œuvre, donc, on peut dire, se situe entre 16 et 19 ans. Qu'est-ce qui se passe donc après ? J'ai intitulé cette deuxième partie, après la première partie sur l'aventure du poème, j'ai intitulé cette deuxième partie le poème de l'aventure. Puisque pour Rimbaud, à 19 ans, va commencer une vie complètement différente, sans poésie, mais avec quand même pas mal d'écriture, en particulier toute sa correspondance. On peut signaler donc un premier temps de 7 ans d'errance, mais avec des retours réguliers à Charleville. 7 ans d'errance qui vont amener Rimbaud à Londres, puis on le retrouvera un peu plus tard à Stuttgart, où il reverra d'ailleurs dans une très brève entrevue, il reverra Verlaine à qui il donnera la saison à l'enfer. Puis retourne à Charleville. À Charleville, il devra endurer le décès d'une de ses sœurs. À cette occasion, d'ailleurs, il se rasera complètement le crâne. Toujours des comportements un petit peu bizarres. En 1876, il a 22 ans. On le trouve à Vienne, on le trouve à Rotterdam. On le trouve aux Pays-Bas, où il va même s'engager dans l'armée des Indes, mais juste pour faire le voyage jusqu'à Sumatra et Batavia, et puis là il désertera. Il revient, il passe en Irlande, puis on le retrouve à Charleville. En 1867, il est à Brême, à Stockholm, à Copenhague. À Copenhague, on le trouve employé dans un cirque. Alors, il fait pas de gymnastique, hein, ni de clown. Il aide à l'intendance, on va dire, du cirque. Rien ne dure, bien entendu. En 1878, la famille de Rimbaud s'installe définitivement à Roche. On a déjà parlé de cette maison qui était, de cette ferme, hein, qui était résidence, on pourrait dire, secondaire. En octobre, Rimbaud va franchir le Saint-Gothard à pied pour aller en Suisse. On le retrouve ensuite à Gênes. Et puis, en 1879, il est employé dans une carrière de pierre à Chypre, comme chef de chantier. Dans une carrière de pierre. Et puis, donc, on arrive à 1880, où là va commencer la grande aventure africaine de Rimbaud. En 1880, donc, Rimbaud a 26 ans, et il est d'abord de nouveau à Chypre, embauché dans la construction d'un palais. Puis, en juin, il se dirige sur Aden, où il est embauché dans un comptoir, la maison Vianney-Bardet. Et c'est à partir de là qu'il va comprendre qu'il y a peut-être quelque chose à faire là. Et donc, depuis Aden, qui est spécialisé, là, cette maison Vianney est spécialisée dans le café, le moka, le fameux café éthiopien, qui vient donc des plateaux du Harar, et Rimbaud est chargé de transporter, via des caravanes, de transporter tout ce café qu'il faut aller chercher et ramener depuis les plateaux de Harar, en Éthiopie, à 300 km d'Aden, après avoir traversé la mer. Donc, il fait de nombreux allers-retours à Harar, en Abyssinie, donc en Éthiopie. Nombreuses caravanes, donc je le disais, il transporte sur lui, donc il gagne de l'argent, ce dont il a toujours rêvé. Il transporte sur lui l'argent qu'il a transformé en or, et on sait qu'il transporte sur lui 8 kilos d'or, mais qu'il déposera plus tard au Caire, et 8 kilos d'or qu'il a fait transformer en espèce de bracelet. Donc, plein d'aventures se produisent à ce moment-là, d'histoires de caravane où il se fait rouler par des marchands, son aventure avec Ménélique, un seigneur donc éthiopien, qu'il a beaucoup de mal à joindre. Et donc, ayant bien découvert cette région du Harar, il décide de se fixer en 1888, en mai 1888, il se fixe donc à Harar pour avoir sa propre agence commerciale, où il vend là de tout, des casseroles, du café, de tout ce qu'il y a à vendre dans une ville comme le Harar. Une parenthèse pour dire qu'est-ce qui se passe pendant ce temps à Paris. Revenons à Paris. Rimbaud n'est au courant de rien, puisqu'il a rompu toute correspondance avec quiconque. Il n'a de correspondance qu'avec sa mère et sa sœur. Et donc, il ignore complètement ce qui se passe à Paris. Or, à Paris, en 1884, en avril 1884, Verlaine, qui est le dépositaire, on pourrait dire, de la plupart des poèmes de Rimbaud, que Rimbaud a recopié pour Verlaine, ou que Verlaine a lui-même copié. Verlaine est aussi dépositaire d'une saison en enfer. Et Verlaine publie, en 1884, il publie un petit livre, une petite revue, enfin il publie chez Léon Vanier, une petite plaquette qui s'appelle Les Poètes Maudits, et qui présente trois poètes. C'est un petit volume qui est tiré à 253 exemplaires seulement, et orné de trois portraits, ceux de Tristan Corbière, d'Arthur Rimbaud et de Stéphane Mallarmé. Ces poèmes, Verlaine les avait déjà publiés dans une petite revue hebdomadaire qui s'appelait Lutèce. Et donc, ces textes publiés par Verlaine, qu'il les fait publier 2 ans plus tard également dans La Vogue, et dans La Vogue, il fait aussi publier Une saison en enfer. Voilà, donc il se produit que on parle beaucoup enfin beaucoup, toujours pareil, comme quand on parle des poètes. Dans un certain milieu, à Paris, on parle de Rimbaud, qui est encensé, voilà, de ses poèmes éblouissent tout le monde, mais Rimbaud, lui, est au Harar et l'ignore complètement. Tout ce qu'on sait de Rimbaud, on le sait par sa correspondance, mais sa correspondance jusqu'en 1891, c'est-à-dire l'année de la mort de Rimbaud, jusqu'en 1891, sa correspondance est essentiellement une correspondance, on pourrait dire, administrative, hein, qui s'adresse à des gens avec qui il est en affaire, avec qui il travaille. Mais je voudrais quand même lire du Rimbaud, et donc je vais vous lire les lettres de la fin de la vie de Rimbaud, qui sont des lettres adressées soit à sa mère, soit à sa sœur. Mais bon, en attendant, on va écouter, pour faire une pause, on va écouter un poème de Rimbaud mis en musique et interprété par Léo Ferré. Et ce poème s'appelle, cette chanson s'appelle Les Poètes de 7 ans. Donc voilà, Léo Ferré vous laisse écouter.
Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière. sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tout le jour il suait d'obéissance, très intelligent, pourtant d'éthique noire, quelques traits semblaient prouver en lui d'âcres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies, en passant il tirait la langue, les deux poings à laine, et dans ses yeux fermés voyait des points. Une porte s'ouvrait sur le soir à la lampe. On le voyait là-haut qui râlait sur la rampe sous un golfe de jour pendant du toit. L'été surtout vaincu, stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là tranquille et livrant ses narines. Quand on lavait des odeurs du jour, le jardinet derrière la maison en hiver s'illuminait, gisant au pied d'un mur enterré dans la Marne, et pour des visions écrasant son œil d'arne, il écoutait grouiller les galeux espaliers. Pitié, ses enfants seuls étaient ses familiers, qui, chétif, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant de maigres doigts jaunes et noirs debout, sous des habits puant la foire et tout vieillot, conversaient avec la douceur des idiots. Et si, l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement, c'était bon, elle avait le bleu regard qui ment. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui la liberté ravit. Forêt, soleil, rive, savane, il cédait de journaux illustrés où rouge il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Quand venait l'œil brun folle en robe d'indienne, 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos en secouant ses tresses et qu'il était sous elle, il lui mordait les fesses, car elle ne portait jamais de pantalon, et par elle meurtrie des poings et des talons, remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. Il craignait les blafards dimanches de décembre, où, pommadé sur un guéridon d'acajou, il lisait une Bible à la tranche vert chou. Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes qu'au soir fauve et noir en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg, où les crieurs, en 3 roulements de tambour, font autour des édits rire et gronder les foules. Il rêvait la prairie amoureuse, où des houles lumineuses, parfums saints pubescence d'or, font leur remuement calme et prennent leur essor. Et comme il savourait surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue, aux persiennes closes, au thé bleu, âcrement prise d'humidité, il lisait son roman sans cesse médité. Plein de lourds ciels au creux et de forêts noyées, de fleurs de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement, déroutes et pitiés, tandis que se faisait la rumeur du quartier, en bas seul et couché sur des pièces de toile écrues. Et pressant,
quelle magnifique interprétation, quel magnifique texte. Vous aurez noté, hein, dans ce poème de Rimbaud qui date du 26 mai 1871, donc de la période poétique de Rimbaud, mais cet aspect prémonitoire, hein, de l'œuvre de Rimbaud, je rappelle, vous l'avez entendu chanter par Léo Ferré, mais à 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui, la liberté ravit, et un peu plus loin, tandis que se faisait la rumeur du quartier, en bas, seul et couché sur des pièces de toile écrues, et pressentant violemment la voile. Le désert, la voile, on est en 1871, Rimbaud a 17 ans, et à 17 ans, on a déjà tout son avenir qui est inscrit dans ses vers, qui est inscrit dans cette poésie. Léo Ferré a enregistré en 1964 un disque des poèmes de Verlaine et des poèmes de Rimbaud, mis en musique et interprétés par Léo Ferré. Et il a également fait en 67 la même chose avec des poèmes de Baudelaire. Et plus tard, il fera aussi la même chose avec des poèmes d'Aragon. Donc, Léo Ferré a toujours été un très grand serviteur de la poésie. Un poète lui-même, d'ailleurs. Donc, revenons à Rimbaud. Rimbaud vient de passer plus de 10 ans dans les affres de ce travail de caravanier et de droguiste, on pourrait presque dire. Il a bien sûr beaucoup marché, beaucoup souffert, beaucoup enduré, tantôt la chaleur, tantôt le froid. Je précise que Harar se trouve sur le plateau du Harar, en Éthiopie, que c'est en altitude, c'est à 1700 mètres, je crois, me souvenir. Et il y fait aussi froid. Et c'est une région donc très tempérée, très verte, où il pleut beaucoup et où donc on peut cultiver le café entre autres. Et puis, malheureusement, début 1891, le 20 février, Rimbaud adresse cette lettre à sa mère. Ma chère maman, je vais mal à présent, du moins j'ai à la jambe droite des varices qui me font souffrir beaucoup. Voilà ce qu'on gagne à peiner dans ces tristes pays. Et ces varices sont compliquées de rhumatisme. Un peu plus loin, cette infirmité m'a été causée par de trop grands efforts à cheval et aussi par des marches fatigantes. Car nous avons dans ces pays un dédale de montagnes abruptes où l'on ne peut même pas se tenir à cheval. Tout cela sans route et même sans sentier. Avec cela, j'ai une douleur rhumatismale dans ce maudit genou droit qui me torture, me prenant seulement la nuit. Les choses ne vont pas s'arranger et finalement, en avril 1891, Rimbaud décide de partir et d'aller voir à Aden pour éventuellement se faire soigner. Il a essayé de tenir, donc il est parti, comme il le dira un peu plus tard, mais il est parti sur une civière avec des porteurs. Je louai 16 nègres porteurs, à raison de 15 talari l'un, du Harar jusqu'à Zeila. Je fis fabriquer une civière recouverte d'une toile et c'est là-dessus que je viens de faire, en 12 jours, les 300 km de désert qui séparent les monts du Harar du port de Zeila. Inutile de vous dire quelles horribles souffrances j'ai subies en route. Je n'ai jamais pu faire un pas hors de ma civière, mon genou gonflé à vue d'œil et la douleur augmentait continuellement. Arrivé ici, je suis entré à l'hôpital européen. Il y a une seule chambre pour les malades payants, je l'occupe. Le docteur anglais, dès que je lui ai montré mon genou, a crié que c'est une synovite arrivée à un point très dangereux par suite du manque de soins et des fatigues. Il parlait tout de suite de couper la jambe. Ensuite, il a décidé d'attendre quelques jours pour voir si le gonflement diminuerait un peu après les soins médicaux. Je suis un pauvre infirme qu'il faut transporter très doucement. Enfin, je vais prendre mon parti dans la huitaine. Ne vous effrayez pas de tout cela cependant, de meilleurs jours viendront, mais c'est une triste récompense de tant de travail, de privation et de peine. Hélas, que notre vie est misérable. Je vous salue de cœur. Et on a quelques informations parce que pendant ce voyage, Rimbaud avait l'intention de noter ce qui se passait, mais évidemment, vu sa position éternellement couchée et sa douleur, le temps qu'il faisait également, puisqu'il a plu pratiquement pendant toute cette descente du Harar jusqu'à Zaïla, il a commencé à écrire. On peut penser que là, il a encore écrit au départ avant de commencer à avancer. Mais il a écrit le 7 avril, il écrit « Départ du Harar, 6h du matin, arrivé à Degadalal à 9h30 du matin. Marécage à Egon, au Egon, midi. Egon à Balawa Fort, 3h. Descente d'Egon à Balawa, très pénible pour les porteurs, qui s'écrasent à chaque caillou, et pour moi qui manque de chavirer à chaque minute. La civière est déjà à moitié disloquée, et les jambes complètement rendues. J'essaie de monter à mulet, la jambe malade attachée au cou du mulet, je suppose. Je suis obligé de descendre au bout de quelques minutes et de me remettre en la civière qui était déjà restée 1 kilomètre en arrière. Arrivé à Balawa, il pleut, vent furieux toute la nuit. » Donc le début de ce texte qui s'appelle « Itinéraire de Harar à Varambot », le début est assez long et assez écrit. Et puis progressivement, il y a juste quelques notations de quelques lignes. Levé de Balawa à 6h30, parti à 7h du matin, puis ça s'espace de plus en plus. Simplement, par exemple, lundi 13, il écrit « Levé à 5h30, arrivé à Biokaboba à 9h, campé. » Et la dernière notation, le 17, « Levé d'Apad, 9h30, arrivé à Varambot à 4h30. » Donc il arrive à Aden, et à Aden, il écrit une lettre, la lettre que je vous ai lue précédemment, à sa mère, où le médecin lui a dit donc qu'il faudrait peut-être envisager de couper la jambe. Finalement, Rimbaud ne se résout pas à cette mutilation et décide de rentrer en France. Et il s'embarque tant bien que mal sur un bateau donc qui le conduit à Marseille. Après des souffrances terribles, il écrit à sa mère depuis Marseille. Il est à l'hôpital de Marseille et il écrit le 21 mai. « Ma chère maman, ma chère sœur, après des souffrances terribles, ne pouvant me faire soigner à Aden, j'ai pris le bateau des messageries pour rentrer en France. Je suis arrivé hier après 13 jours de douleur. Me trouvant par trop faible à l'arrivée ici et saisi par le froid, j'ai dû entrer ici à l'hôpital de la Conception, où je paie 10 francs par jour, docteur compris. Je suis très mal, je suis réduit à l'état de squelette par cette maladie de ma jambe, qui est devenue à présent énorme et ressemble à une énorme citrouille. C'est une synovite, une hydarthrose, etc., une maladie de l'articulation et des os. Cela doit durer très longtemps si des complications n'obligent pas à couper la jambe. En tout cas, j'en resterai estropié. Mais je doute que j'attende. La vie m'est devenue impossible. Que je suis donc malheureux. Que je suis donc devenu malheureux. Quelle triste vie. Ne pouvez-vous m'aider en rien ? Et puis, télégramme qu'il adresse le lendemain de cette lettre, le 22 mai, en pleine nuit, télégramme qu'il adresse à sa mère. « Aujourd'hui, toi ou Isabelle, venez Marseille par train express. Lundi matin, on ampute ma jambe. Danger, mort. Affaire sérieuse réglée, Arthur. Hôpital Conception, répondez. » Et donc, la mère de Rimbaud va prendre un train depuis Charleville-Mézières et va se rendre à Marseille. 23 juin, Rimbaud écrit à sa sœur Isabelle « Ma chère sœur, pour moi, je ne fais que pleurer jour et nuit. Je suis un homme mort. Je suis estropié pour toute ma vie. Dans la quinzaine, je serai guéri, je pense, mais je ne pourrai marcher qu'avec des béquilles. Quant à une jambe artificielle, le médecin dit qu'il faudra attendre très longtemps, au moins 6 mois. » Et donc Rimbaud continue à écrire assez régulièrement, quelques lettres à sa sœur Isabelle, qui est restée à Charleville-Mézières, et lui est avec sa mère. Mais sa mère ne restera pas non plus éternellement. Et au bout de quelques mois, Rimbaud pourra sortir de l'hôpital et rentrer à Charleville-Mézières en train, tant bien que mal. Il va passer un mois à Charleville-Mézières et finalement, devant les douleurs qui persistent, il va décider de revenir à Marseille pour se faire soigner. Et donc, on arrive à la fin de la vie de Rimbaud et donc de ses écritures. Mais la fin, il souffre tellement, il ne peut plus écrire, et donc c'est sa sœur qui nous tient, sa sœur qui l'a rejoint, qui l'a accompagné, et qui est restée avec lui, sa sœur Isabelle, qui est restée avec lui à Marseille, et c'est elle qui va nous tenir au courant de ce qui se passe. Et elle écrit donc à sa mère, qui est repartie à Charleville-Mézières, et elle écrit « Ma chère maman, c'est un pauvre garçon qui s'en va petit à petit. Sa vie est une question de temps, quelques mois peut-être, à moins qu'il ne survienne ce qui pourrait arriver un jour à l'autre, quelques complications foudroyantes. Quant à guérir, point n'est besoin d'espérer, il ne guérira pas. Sa maladie doit être une propagation par la moelle des os de l'affection cancéreuse qui a déterminé l'amputation de la jambe. Ses douleurs ne cessent pas, ni sa paralysie des bras. Il est très maigre, ses yeux sont enfoncés et cerclés de noir, il a souvent mal à la tête. Quand il dort la nuit, il a des rêves effrayants. Il sue jour et nuit par le froid comme par la chaleur. Depuis que la raison lui est revenue, il pleure toujours. Il voudrait absolument avoir sa jambe articulée pour essayer de se lever, de marcher, lui qui, depuis un mois, n'a été levé que pour être posé, tout nu, sur un fauteuil, pendant qu'on faisait son lit. Je suis bouleversé par ces textes quand j'imagine un Rimbaud tout nu, devenu tout maigre, malade et souffrant, attendant sur ce fauteuil qu'on fasse son lit. Je trouve ça bouleversant. Et puis finalement, la mort de Rimbaud, racontée par sa sœur, avec une lettre que je ne lirai pas, mais c'est la sœur qui écrit, et c'est une lettre qui a trompé beaucoup de monde, mais je n'aborderai pas cette question, sur la religion ou non, la croyance en Dieu ou non de Rimbaud. Mais c'est la sœur qui écrit, et donc il faut se méfier de son témoignage. Mais enfin, elle écrit cette dernière lettre que Rimbaud lui a dictée. Marseille, 9 novembre 1891. Rimbaud est mort le 11. Une dent seule, deux dents, un lot, une dent seule, un lot, deux dents, un lot, trois dents, un lot, quatre dents, un lot, deux dents. Monsieur le directeur, c'est Rimbaud qui délire. Hein ? Sa sœur note, mais on sent que c'est un délire complet. Je viens vous demander si je n'ai rien laissé à votre compte. Je désire changer aujourd'hui de ce service-ci, dont je ne connais même pas le nom, mais en tout cas que ce soit le service d'Affinard. Tous ces services sont là partout, et moi, impotent, malheureux, je ne peux rien trouver. Le premier chien dans la rue vous dira cela. Envoyez-moi, donc, le prix des services d'Affinard à Suez. Je suis complètement paralysé, donc je désire me trouver de bonne heure à bord. Dites-moi à quelle heure je dois être transporté à bord. Rimbaud, donc, sera inhumé un peu plus tard à Charleville-Mézières, le 23 novembre. Voilà, je ne sais plus que dire après cette. Je suis toujours bouleversé quand je lis ça, donc je vais m'arrêter là.
Voilà, c'était la poésie chiche. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie. Merci de votre fidélité et rendez-vous pour la prochaine émission. À bientôt, chers amis.